L'Église nous invite à solenniser le Christ roi. C'est une fête relativement récente, c'est le pape Pie XI qui l'a instauré en 1926. Il s'agit de réfléchir quelques instants, mais qu'est-ce que c'est qu'un roi ? L'oraison, la prière d'ouverture de la messe, nous rappelait, nous disait que c'est le Père qui est par excellence roi. Il est créateur, il conduit toutes choses, il gouverne le monde, il fait que toute chose se tient dans l'ordre, chaque chose à sa place. Et c'est cela, être roi. C'est régner et donc gouverner, tenir toutes choses dans un ordre donné. Et un ordre qui est bon, évidemment. Ça, c'est le roi dans son essence, celui qu'on ne trouve pas sur terre. Alors, sur la terre, les hommes vont essayer de reproduire ce modèle divin. Il va y avoir des hommes qui seront choisis pour tenir cette place de gouvernement, cette place de tenir toutes choses dans l'ordre. Et c'est nos rois à la manière humaine, les rois d'Assyrie, les empereurs grecs, les empereurs romains, les rois de France, les présidents de la République française. Tout cela tiennent cette position du roi qui gouverne, qui tient les choses à leur place. Alors on s'est posé la question, comment choisir un roi ? Alors le réflexe normal et humain, c'est je choisis le roi parce qu'il est le plus compétent, parce qu'il est le plus apte, parce qu'il est le plus capable, parce qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus costaud, et donc on choisit Saül, à l'époque du prophète Samuel. Et il va régner quand même quelques années, près de 40 ans, et on se rend compte que c'était un mauvais choix. Parce que roi, il se met à croire que ce n'est pas une délégation qu'il reçoit de Dieu, mais il croit qu'il est roi pour lui-même. Et la tentation de l'homme, c'est ce qu'il reçoit sans croire le propriétaire. Et donc, les actes de vénération qu'on rend au roi parce qu'il est, il tient d'une certaine manière la place de Dieu, il est lieutenant de Dieu, eh bien, il croit que ça lui appartient. Et donc ça ne marche pas. Alors on va changer, et dans le roi suivant sera choisi ni parmi les plus compétents, ni parmi les plus beaux. Il était roux, imaginez-vous. C'est David, le 8e fils d'une famille de 7. Donc ce David, qui n'a encore rien fait, il n'a même pas encore tué Goliath. Il est choisi comme roi. Pourquoi ? Son métier nous indique peut-être quelque chose. Il est choisi, il est pris de derrière son troupeau, ce petit berger. Et on lui confie la même mission auprès des hommes. Quelques années plus tard, on aura des hommes qui, vous étiez des pêcheurs de poissons, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Eh bien, David, il a entendu, tu étais un berger pour des brebis, tu deviens un berger pour des hommes. Et tu vas occuper cette place de berger. Autrement dit, tu vas prendre soin du troupeau. Tu vas te mettre au service du troupeau pour sa joie et son bonheur. Voilà, vous savez, un berger, s'il essaye de s'asseoir sur son caillou et qu'il essaye de se faire servir par ses brebis, ça risque de ne pas marcher. Le berger, il se fatigue pour ses brebis. Alors David sera un bon roi, à ce titre-là, un serviteur de son peuple, même s'il y aura quelques tentations, quelques tendances à vouloir lui aussi accaparer la mission qu'il a reçue. Mais après lui, c'est pas top. Les rois qui se succèdent, très vite, ont ce réflexe de croire que finalement, il mérite d'être roi. Et c'est la parole d'Ézéchiel qu'on a entendue, où Ézéchiel, pendant cet exil, alors que le peuple n'a plus de roi, plus de temple, plus de prêtre, plus rien, Ézéchiel relaie la parole de Dieu, où Dieu promet au peuple d'être lui-même le berger du peuple. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la rechercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Et celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Le roi, Dieu lui-même, qui est le roi, par essence, choisit de venir à notre rencontre pour se faire notre berger. Et nous savons quand est-ce que ça se met en œuvre. Le roi, c'est le premier messie, avec le prêtre et le prophète, c'est ceux qui sont choisis de Dieu, ceux qui sont huilés. Hein? Messie, Christ, cela veut dire huilé, qui a reçu l'huile, qui a reçu une mission, il est choisi. Et le messie par excellence, c'est Jésus. Jésus qui devient de façon plénière, prêtre, prophète et roi. Alors on regarde Jésus et on lui dit, bon alors, on pourrait faire comme Pilate, alors tu es roi? Et Jésus lui dit, tu le dis, c'est vrai, tu as raison. Je suis roi. Mais un roi qui met un peu par terre toutes nos conceptions de la royauté. Parce qu'il applique ce qui avait été demandé à David et que David avait essayé petitement de mettre en œuvre, Jésus le met en œuvre pour de vrai. Il se fait le serviteur de ses frères. Il se fait le petit qui vient donner sa vie pour ses brebis. Effectivement, hein. Le trône du Christ, c'est la croix. L'action du Christ, c'est de donner sa vie. Alors, il est Dieu, fils de Dieu. Et à ce titre-là, il a droit à toute notre adoration, à tout notre amour. Et il est roi pleinement. Parce que fils de Dieu est donc héritier du Père. Mais cette royauté, il a choisi de la mettre en œuvre de cette manière toute particulière qu'est la manière divine. Tel un berger, mais un berger qui donne sa vie. En dernier point, je veux nous faire réfléchir un tout petit peu à un point essentiel. C'est que nous sommes ici baptisés. Nous sommes par le baptême connectés au Christ, membres du corps du Christ. À ce titre-là, nous sommes unis au Christ, prêtres, prophètes et rois. Nous sommes appelés à être comme Jésus, roi, avec Jésus, roi. Et donc, au service. C'est un cadeau immense qui nous a été fait, ce cadeau de grâce. Il s'agit aussi de participer à cette royauté du Christ en posant les actes, en réponse à ce cadeau. Des actes qui sont des actes d'amour plénier et qu'on a bien entendu dans l'Évangile. Des actes d'amour. Et Jésus, dans cet évangile, le Fils de l'homme, c'est lui. Il est le Fils de l'homme, par excellence, l'homme, tel que Dieu l'avait prévu de toute éternité. Un homme qui est absolument à sa place, dépendant absolument du Père, et ayant reçu du Père le gouvernement, la tenue dans l'ordre de toutes choses. Et il viendra dans la gloire. Et à ce moment-là aura lieu un jugement qui nous est présenté comme le jugement des nations, autrement dit, de tous les hommes, sans exception. ce n'est pas le jugement des baptisés, ce n'est pas le jugement des catholiques, c'est le jugement des nations, de tous les hommes. Et le mot jugement, en grec, ça se dit krisis. Krisis, on entend le mot en français, la crise. Ça signifie le discernement, le découpage, la séparation. Il s'agit de discerner le bon du mauvais. C'est toujours un moment douloureux. Le juge fait un discernement et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. On pourrait se dire, les brebis, c'est les cathos, les boucs, c'est les autres. Allez, soyons plus cool. Les chrétiens, c'est les brebis et les autres. Non, c'est pas comme cela que se fait la distinction. Parmi les brebis, il y aura des chrétiens et il y en aura plein d'autres. Parmi les boucs, il y aura plein d'autres et il y aura malheureusement beaucoup de chrétiens. Le discernement, il est sur les actes que nous aurons posés. L'acte d'amour que nous posons, c'est un moyen d'être ouvert à recevoir Dieu, à recevoir l'amour de Dieu, à vivre ce pour quoi nous sommes faits, être aimé et aimé à notre tour. Refuser de poser ces actes, ou les ignorer, ou être indifférent, c'est se fermer à cet amour, se fermer à ce pour quoi nous sommes faits, et à choisir finalement un isolement. C'est pas Dieu qui nous jette dehors. C'est très intéressant. Venez les bénis de mon Père. Qui sont les bénis du Père? Tous les hommes, sans exception aucune. Allez-vous-en, maudits. Maudits de qui? Pas de Dieu. Celui qui est maudit, c'est celui qui n'accueille pas la bénédiction du Père. Il s'agit pour nous de nous positionner. Nous sommes invités à choisir, à poser un acte libre. Nous sommes invités à nous engager aujourd'hui. Que voulons-nous? Nous satisfaire de notre confort quotidien? C'est bon, j'ai pas tué. J'ai pas volé. J'ai rien fait de mal. Et puis, on va pas chercher plus loin. Où est-ce que je décide de mettre l'amour dans ma vie? Au sens le plus plénier, Dieu lui-même. C'est là qu'est notre choix. Et ça, tout homme est appelé à le poser parce que tout homme est créé de Dieu, aimé de Dieu, et nous avons tous, baptisés ou non baptisés, au cœur cette perception de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Si nous sommes baptisés, nous avons un cadeau tout particulier qui nous met d'autant plus responsables. Si Jésus dit cette parabole à ses disciples, c'est bien pour leur dire... Si tous sont appelés à ce choix, combien plus vous? Et nous sommes appelés, nous, en plus, à témoigner, à alerter les hommes, nos frères, pour leur dire attention, nos actes d'aujourd'hui nous engagent pour l'éternité. Au final, c'est une bonne nouvelle que nous annonce le Christ. C'est une bonne nouvelle parce que ce qu'il nous dit, c'est que nous pouvons, avec sa grâce, vivre dans un amour plénier. Et alors, choisir la vraie vie, choisir le vrai amour et ainsi obtenir la vraie joie.